fasse la bête.
Bonjour et bienvenue sur FMR, nous sommes le samedi 7 octobre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui? Et bam, dès maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, télévision et baston. Suivi de ça, c'est du sport, à 13h, les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite, à 17h, du mix avec Big Bang, à 18h, du punk avec Vie d'ordure, 19h, on est chez nous, alors ça tombe bien, amenez les cahuètes, les bières et tout le reste. À 20h, de l'électro avec la Cétéro Experience, à 21h30, stay tuned, c'est du two-step, et c'est la nouvelle grille de Radio FMR. Et ceci dit, ce soir, si vous n'avez rien à faire, allez au festival Toulouse Punker 2, c'est au Vent du Sud, à partir de 20h, l'entrée de 7€, avec Diego Palavas, Brigitte Bop, Mondragon, Medef Inda, Babylon et Daou Garou. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est vraiment un son qui pète et c'est recommandé par Radio FMR, bien sûr.
FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Ça va, j'espère que vous êtes bien calés. Nous, on est bien installés dans vos oreilles. Alors, autant en profiter, c'est le supplément week-end de Radio FMR. Un magazine qui va vous parler de bande dessinée jeunesse pour une fois, qui va aussi vous parler un peu d'infiltration, de franc-maçonnerie et de hard rock et plein d'autres choses. C'est un peu un programme comme ça. Allez hop, on y va par-dessus les oreilles et vous allez voir, on est vraiment bien ensemble. Il n'y a pas Thomas cette semaine, il est puni, voilà. Il vous en dira plus la semaine prochaine. En attendant, profitez-en. Les Seatbelts de Yoko Kanno et Raju Ramaya, Cosmic Dare Pretty with a Pistol, extrêmement de son de Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door.
Anything goes in this cosmic bed.
Alors évidemment du sport. M'a écouté d'une oreille de fer et m'a et à deux doigts de me fesser parce que poupée de cire, poupée de son, c'est France Gall. J'étais à deux doigts de dire une connerie, je le savais. Et j'ai préféré m'abstenir. Et comme quoi, hein. On va vous amener dans un pays merveilleux, un pays où les enfants ont que des amis et tout ça. Ah, je déconne. Puisque Thomas n'est pas là, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais en tout cas, on a rencontré lors du dernier festival d'Angoulême qui a eu lieu en janvier dernier, Café Quid. On a rencontré donc Christophe et Sabine comme ça, et puis voilà. Ah, l'histoire de Café Quid, c'est celle d'une bande d'étudiants de l'école de l'image d'Angoulême qui ont monté leur petit label indépendant en 98. Ils entretiennent de nombreux lieux avec d'autres éditeurs locaux, comme par exemple Coconino World, dont on a déjà parlé dans cette émission. En 2002, pour le festival d'Angoulême, ils sortent leur premier Choco Quid. Choco Quid, c'est un journal collectif qui ne sort que tous les ans, dans un format carré, au papier épais et accueillant et aux couleurs acidulées, aux histoires fantasmagoriques, aux traits naïfs. Son dessin est prévu pour les enfants, mais les auteurs s'amusent des fois à laisser des allusions adultes. Et chaque numéro annuel est thématisé. La science-fiction pour le premier, puis l'horreur, la tendresse, la nature, et pour le cinquième numéro, le mystère. Le numéro de cette année avait été évidemment doublé d'une expo présentant l'univers de ses auteurs. On est entré dans l'expo avec Thomas parce qu'on adore leurs travaux, mais on ne s'attendait pas à les déguster. Car ils ont édité pour ce festival d'Angoulême des tablettes de chocolat avec un très bon artisan chocolatier. N'appelez pas, il n'y en a pas. Je les partage pas, je les ai déjà tous mangés. La gourmandise de la lecture allant de pair avec celle du palais, on s'est vraiment fait plaisir quoi pendant l'interview. Et si avec ça, on ne retombe pas en enfance, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, une interview de Christophe et Sabine de Café Quid à Angoulême dans l'exposition Choco Quid, d'où je veux dire un peu le bazar ambiant. Et c'est ça qui fait le plaisir. On relance. Christophe et Sabine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les auteurs d'un collectif qui s'appelle Café Quid, qui tous les ans sort Choco Quid. Alors, qu'est-ce que c'est que Choco Quid ? C'est la bande dessinée à croquer ou à déguster doucement sur le fond de la langue ?
Je voudrais dire qu'on n'est pas tous les deux seulement, on est très nombreux dans l'association. Hein. On est
à peu près 44 pour faire le nouveau bouquin.
À peu près 44.
Voilà. Et en fait, cette année, pour l'exposition, on regroupe trois collectifs, à savoir les Morvelles, qui sont en fait... on est tous issus des Beaux-Arts. Plus ou moins.
Plus ou moins issus des Beaux-Arts.
Voilà. Et on est tous plus ou moins des anciens Beaux-Arts. Et là, les Morvelles, c'est la nouvelle génération. Donc, on leur a proposé de venir faire une exposition cette année. Et on accueille un collectif de Bordeaux. C'est les Milk Pack qui font plutôt du street art. Voilà.
Alors la chose qui a remarqué, c'est que vous faites la bande dessinée pour enfants, des beaux livres d'art, mais surtout qui s'adressent indirectement aux adultes, et par des allusions quand même, et tout à fait fines.
C'est fin ? Tant mieux, merci.
Alors en fait, pour le bouquin, il y a beaucoup d'auteurs. Donc la seule contrainte qui va réunir tous ces auteurs, ça va être un thème chaque année. Donc l'année dernière, c'était la nature, cette année, c'est le mystère. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, on me tend un micro, c'est toujours comme ça.
Le public. Voilà.
Et en fait, dans le livre, on essaye d'organiser. Ça veut dire qu'au début du livre, on s'adresse aux tout petits, avec des histoires sans paroles, muettes, avec des grands dessins. Et plus on avance dans le livre, plus les histoires se complexifient et s'adressent à un public un peu plus âgé.
Mais c'est vrai que les grandes maisons d'édition ont besoin d'avoir un public ciblé. Ici, les auteurs font vraiment ce qu'ils ont envie de faire et ils n'ont pas besoin de répondre aux nécessités d'une grande maison d'édition.
Café.
Oui, qui décide des thèmes et comment sont réparties les planches, les nombres de pages ?
Les thèmes sont décidés
collectivement.
De manière collective.
Et l'organisation dans le bouquin s'organise de manière
collective également.
Voilà, car nous sommes en
collectivité.
Ce qui est assez étonnant, c'est que donc il y a ces thèmes, il y a ce dessin qui est très coloré, très vivace, relativement peu de texte d'ailleurs, mais que ça fait quand même école puisque Capsule Cosmique 2000 ans, tout de suite, la première comparaison qu'on a eue quand on l'a vu, c'est tout de suite, ça fait penser à Choco Quid.
Quel copieur, on le savait.
Non, nous on est très contents que...
On peut vous donner l'adresse, hein, c'est pas loin.
On est très contents que cette année il y ait une expo capsule cosmique. De toute façon, c'est des auteurs qui vont transiter. On a des auteurs qui, par exemple Marion Girard qui a fait la couverture cette année du Chococrite, travaille pour Capsule Cosmique chaque mois. Donc on est très contents que, même si on s'adresse au même public, qu'ils soient présents aussi sur le festival. Et on, même s'ils ont plus de sous que nous, on leur en veut pas.
Qu'est-ce qui vous a motivé, franchement, de travailler pour les enfants? C'est un phénomène adolescent ou se dire c'est le genre de BD, franchement, j'aurais toujours regretté d'avoir. Question suivante, peut-être. Thomas?
Non.
Répondre.
C'est parce qu'on
n'a
jamais grandi, ouais.
Ouais, voilà, en fait, on a fait 5 ans d'études et puis au final, on a dessiné on dessine des Mickey. Donc, on s'est... Non, plus sérieusement...
S'en fout d'être sérieux.
Non, je pense... Ah oui, c'est vrai, on est sur une radio où on s'en fout d'être sérieux. En fait, on peut pas dire que ça soit une esthétique, mais c'est vrai que au bout de 5 numéros du Chococrite, il y a une sorte d'esprit. Donc c'est l'esprit Choco. Donc c'est vrai que c'est tout en couleur, c'est toujours très rond. On a beaucoup d'influences tous. Là, ce qui se passe au Japon avec le phénomène kawaii, les petites choses mignonnes et tout, nous on est très influencés. Et c'est, je pense, que c'est des préoccupations qui se retrouvent un peu chez tous les auteurs. Donc,
c'est l'occasion en plus de travailler pour les enfants, parce que tous les auteurs ne font pas toujours des choses pour enfants, et justement le fait de participer au Chococrite leur donne l'opportunité de faire un truc pour les enfants qu'ils ne font pas d'habitude.
Et comme ça ils peuvent se lâcher un peu plus que d'habitude. Voilà.
Alors on voit qu'il y a toujours des produits dérivés chaque année, les badges et les stickers. Cette année c'est les chocolats qui viennent faire leur apparition. Est-ce que là, vous pouvez nous livrer quelques scoops pour l'année prochaine?
Ça dépendait si on passait. Peut-être le Chococrite s'arrêterait, on pourrait passer un truc adulte et dans ce cas on penserait à d'autres produits dérivés. Voilà. Mais...
En fait, dès le départ.
Capote, poupée gonflable.
Peluche, déjà, on a fait pas mal.
Non,
disons que dès le départ, dès le premier numéro du Chococrite, les porteurs de projet, à savoir Tristan Lagrange, le porteur de projet avait décidé d'en faire 5. Ça avait été décidé. Donc là, on arrive à la fin de l'aventure. Pour nous, il est peut-être l'occasion de redéfinir un projet, tous ensemble, bien sûr. Parce que peut-être que le défi, au bout de 5 ans, le défi, on a besoin de s'en donner d'autres. Voilà. Donc on va voir ce qu'on vous réserve pour la suite. Mais ça sera toujours du graphisme et ça sera toujours très coloré.
D'accord. Sabrina, Christophe, merci beaucoup. Sabine.
Dans les produits dérivés, il y a les pas couplis aussi. Hein. Des pas couplis, vous n'avez pas cité. Hein. C'est très
important. Ah oui, c'est vrai, superbe. Eh ben, merci beaucoup, on vous souhaite un joyeux festival et surtout bon vent, continuez quand même.
Eh ben, merci à vous aussi, ouais. Faites attention au vernissage arrosé, hein. C'est toujours dur le festival.
Si on n'a que des bonbons et du jus d'orange, vous risquez rien.
Voilà, et si vous voulez savoir un pas coupli, vous savez, c'est des trucs à découper et puis que l'on replie dans tous les sens. Et on peut se les imprimer sur leur site web qui est café-creed.com, si je me souviens bien. Creed, c'est C-R-2-E-D. De toute façon, on mettra toutes les indications sur le site internet de la radio. Vous pourrez réécouter aussi tous les suppléments week-end précédents. Et si vous voulez essayer de trouver les albums Chococrite, je vous souhaite bonne chance parce qu'ils sont rarement réédités. Une fois que c'est épuisé, voilà, c'est fini, il n'y en a que 5. On les trouve chez les libraires à Toulouse, les BD libraires très spécialisés, c'est-à-dire que ce soit Arcade, Atmosphère ou BD Ciné. On a plus de chances, je dirais, de les trouver qu'à la Fnac ou chez Culturouille. Donc voilà, c'est beaucoup plus agréable. Et ce que vous écoutez en fond, c'est ce dont j'ai parlé avant-hier dans l'émission du Rascal, The Orbs Adventures of the Ultra World, qui était l'album qui a compté pour moi pour les 25 ans de la radio. Voilà. Sinon, du sport est en train de tourner, tout ça. Il n'y a pas de Thomas, pour une raison toute simple, parce que Thomas est puni d'antenne. Il a été mis au piqué, tout simplement, parce que voilà, il s'est... J'ai trouvé ça absolument pitoyable et même lamentable. Il s'est fait prendre en photo avec le plus grand acteur belge au monde. Non, c'est pas le plus grand, mais je veux dire, c'est le plus costaud acteur belge au monde. Il s'agit de Jean-Claude Van Damme et cette espèce d'enfoiré. Enfin voilà quoi, ça se fait pas. Pour au moins prévenir que j'aille photographier avec lui. Voilà, non. Non, allez, on déconne. Il est midi et 15 minutes sur la poubelle des radios FMR 89.1 MHz. C'est le supplément week-end. C'est complètement débile cette émission d'Adi que dit tête. Heureusement, on entame les sorties bande dessinée. Et on va commencer les sorties avec le nouvel album de scénarisé par Jean-David Morvan. Ouais, je sais, vous allez encore me dire « Encore !» Et dessiné par Philippe Bûcher. Bah, il est prolifique, qu'est-ce que vous voulez. Il s'agit du 9e tome déjà. Ouais, c'est le 9e tome de la série Sillage et qui s'appelle Infiltration. C'est toujours dans la collection Néopolis chez Delcourt. Et on retrouve Navis. Navis qui, pour arriver à déjouer à temps les plans terroristes d'une dangereuse activiste, eh ben, elle va tenter de se faire incorporer à son commandant. À son commando, je me donne là. Son identité est donc falsifiée et son apparence physique totalement changée. On suit le recrutement de Navis par la terroriste, sa mise à l'épreuve de ses talents, de son courage, mais aussi son manque de loyauté envers les autorités. Bref, un travail d'infiltration de longue haleine. Et comme il est difficile de monter une fausse identité crédible, que n'importe quel geste peut mettre en péril sa couverture et donc sa propre vie, eh ben... c'est quand même assez chaud pour Davis. Alors, quand elle apprend que sa mission est annulée, eh ben, elle y passe outre une fois de plus. Après tout, pourquoi un travail aussi patient et minutieux serait-il ainsi enterré ? Y aurait-il pas Poiscaille sous astéroïde ? C'est sûr. Et elle va vite découvrir que ce commando terroriste dispose de moyens plutôt étonnants. Et quelle peut être la main ou le pédoncule qui s'agite derrière eux ? La seule humaine du sillage, agent très spécial de la constituante, va n'en faire une fois de plus qu'à sa tête, pourvu que cela ne se retourne pas contre elle. Une tête brûlée qui se crame à cause de son tempérament chaud, bouillant, plutôt périlleux en mission d'infiltration. Rien n'est gratuit en ce bas monde, la construction scénaristique de l'album est assez intéressante. On a ainsi trois plans différents de mise en abîme, il y a aussi l'évolution de l'intrigue. Et en lisant l'album trois fois de suite, on découvre d'autres détails dans l'histoire. L'univers très complexe de Sillage, imaginé par le très prolifique scénariste Morvan. Oui, le même que celui du Spirou, chroniqué la semaine dernière. Et il y a évidemment le dessin de Bûcher, très créatif pour les vaisseaux spatiaux, les aliens de toutes races et de toutes espèces, les objets, les armes, les robots, les combinaisons, qui sont de vrais bonheurs à regarder. On sent qu'ils sont vraiment fonctionnels, quelque chose qui est plutôt difficile à rendre finalement dans le space opéra. Et il y a un talent fou à mettre en image les scénarios impliquant Navis dans des cases faussement statiques, il y a pas mal de perspectives de déformation, il y a une large gamme d'expressions des mouvements, il n'y a pas d'onomatopée, assez étonnamment. On y trouve les codes graphiques d'expression de la bande dessinée européenne et de la manga. Je suis fan de la série et son constant renouvellement, sa remise en question permanente en font un univers incroyablement riche et construit. L'album est proprement gigantesque, retourne complètement la série et l'univers. J'ai un énorme regret, ils ont changé la maquette et le logo de la série. C'est dommage, j'aime plutôt le premier. Tant pis si vous n'avez pas acheté les précédents albums à temps. En tout cas, l'extrême inventivité de Morvan et la créativité du graphisme de Bûcher en font une valeur sûre de la science-fiction actuelle, totalement fascinante et inépuisable, mais à des milliards d'années-lumière de toute naïveté. Attendez-vous à une belle claque.
C'est pas celui où c'est pas la série où tu m'avais prêté un bouquin où elle pète les plombs et puis elle va sur une planète et,
avec les humains.
Avec les humains là.
Ouais,
c'est ça.
Elle retrouve ses frères de race. Elle retrouve enfin la race dont elle est censée faire partie.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et c'est vrai que ça
c'est bien. Ouais.
Et pourtant c'était pas, à mon sens, c'est pas le meilleur. Mais waouh, c'est une claque quoi cet album. Et en fait. Il y a tout ça. Il y a dans l'histoire la manière de raconter. Il y a la créativité.
Non, mais justement, j'avais pas percuté. Tu viens de parler du
sillage,
logo,
voilà.
Du logo qui vient de changer et tout. Quand j'avais pas percuté quand j'avais lu le titre, j'ai feuilleté un petit peu. J'ai reconnu la tronche de la nana. C'est pour ça.
Et pourtant, elle en change continuellement. Et là, franchement, elle est carrément défigurée. Donc, vous n'allez pas la reconnaître d'entrée. Ça y va. Enfin.
Il me semble qu'elle a un petit peu éclairci de peau, non?
Ah, il la change régulièrement de couleur, on ne sait pas trop, et puis en même temps tu verras quoi dans l'histoire. En tout cas, oui, c'est vrai qu'elle est plutôt plus métisse en fait que blanche, ça c'est clair. Là aussi, c'est une bonne idée graphique qui a été faite, puisque du coup, il joue pas mal avec ses cheveux, avec ses coiffures dans tous les sens. Jean-David Morvan et Philippe Bûcher, c'est le 9e tome de Sillage qui s'appelle Infiltration, c'est dans la collection Néopolis chez Delcourt. On va changer littéralement de registre puisqu'on va entamer la bande dessinée en costume, c'est-à-dire presque historique. Je veux dire, c'est à peu près comme ça que ça s'appelle. Hein. On peut pas appeler ça historique puisque c'est pas, ça raconte des événements historiques, mais ils prennent des libertés, etc. Il s'agit de Didier Convard, un autre scénariste très prolifique de la bande dessinée française, avec au dessin André Julliard et Denis Falk. Ça s'appelle Le Triangle Secret. Il s'agit d'un album hors série de cette saga qui en comporte 7 tomes, qui s'appelle Hertz. C'est dans la collection Graphica chez Glénat. Alors, c'est un hors série, un album qui nous en apprend plus sur la jeunesse et l'engagement dans la franc-maçonnerie de Martin Hertz. Car évidemment, avant de devenir un personnage important d'une loge maçonnique très influente et un initié au mystère de la loge première, Martin Hertz a été un enfant, un jeune garçon qui, pendant l'occupation de l'Alsace par le Troisième Reich, va aider un prisonnier à s'évader d'un train de la mort. Un courage énorme avec son copain Bartolomeo, mais complètement inconscient quand le prisonnier est recherché à la fois par l'un des SS les plus mortels, mais aussi par le Vatican, prêt à pactiser avec le démon pour obtenir un secret essentiel de la chrétienté. Martin va vite s'en rendre compte de l'incroyable importance du prisonnier et qu'il ne peut vraiment pas faire confiance à un père complètement ivre. Des péchés de jeunesse qui le marqueront à vie et qui décideront de son rôle dans la saga du Triangle Secret. L'idée d'utiliser pour chaque époque un dessinateur différent est dans la même lignée, d'ailleurs ça a été à peu près décidé au même moment, que pour la série de Franck Giroud, le Décalogue. Sauf que Giroud ne faisait appel qu'à un dessinateur par album, alors que Didier Convard avait tenté de raconter plusieurs époques différentes dans le même album, donc plusieurs dessinateurs, connus en plus, réunis sur 52 planches. La différence de style, trop flagrante parfois, donnait une impression désagréable. Là, le relais entre Denis Falk pour le flashback pendant les années d'occupation et André Julliard pour la période actuelle passe bien. Les deux personnalités des dessinateurs se marient même à merveille. Mais on a toujours le défaut de lettrage informatique qui occupe mal les bulles et n'est finalement pas très agréable à lire. Cet album hors série raconte bien le second rôle le plus important du Triangle Secret, une saga qui s'est vendue au total à plus d'un million d'exemplaires. Donc, cette fois, un très gros succès de librairie. Après que Convard règle ses comptes avec ses copains francs-maçons par bande dessinée interposée, on s'en fiche un peu, mais méfiez-vous un peu à qui vous pouvez l'offrir. On sait jamais, ils sont partout. Scénario de Didier Convard, dessin de Denis Fac et André Julliard, Le Triangle Secret, hors série Hertz, dans la collection graphique chez Glénat. Peut-être que du sport avait quelque chose à dire.
Ouais, tu parlais de l'occupation d'Alsace, c'est plutôt de l'annexion de l'Alsace. Hein.
Oui, c'est vrai, oui, c'était la France qui était occupée. L'Alsace et la Lorraine font partie du Reich.
Ouais.
Oui, donc correction. Zou.
Bah, c'est sinon, en direct. Ouais, sinon il parle de Aixheim, mais c'est un patelin que je connais pas du tout. Hein.
Près de Strasbourg. C'est pas impossible, à mon avis, que ça soit un petit peu.
Je crois que c'est inventé là. Hein,
oui, tout
par contre,
fait.
Hein, le camp du Struthof, ça c'est du vrai, du véridique. Hein, y a pas de problème.
ça y va un peu fort, mais pour cela ils sont très forts sur les parties historiques. C'est-à-dire Franck Giroux et Convard sont vraiment des férus d'histoire jusqu'au bout. D'ailleurs, Giroux a été prof d'histoire pas très loin d'ici, à l'université du Mirail. Et ils prennent des libertés, ils jouent avec l'histoire, en cela ils sont très habiles. Par contre, moi ce que je reproche franchement au Triangle Secret, c'est pas la franc-maçonnerie et tout ça, non, c'est vraiment le graphisme.
Ouais,
on a un peu de mal, surtout le lettrage informatique, c'est trop, trop rigide, il passe mal.
Non, et puis bon, c'est un peu léger comme dessin, on va dire. Hein.
Ah, ça, c'est le dessin de Falk. Hein.
Ouais. Moi, c'est vachement lisible, hein, y a pas de problème, hein, y a pas de fioritures et de tout, c'est claque, ça te.
Alors que Convard, dans la période actuelle, Julliard, dans la période actuelle, est plus dans la lignée RGN, ligne claire, enfin plutôt jacobienne d'ailleurs.
Ouais, plutôt jacob, ouais.
Et puis après, ben, on aime pas. Moi, je sais qu'il y en a qui sont fans de la série, qui ont beaucoup aimé, justement, par son côté historique. C'est vrai que c'est assez agréable. Le travail scénariste est très bon. Et les dessinateurs, ils font chacun très bien leur partie. C'est le mélange qui passe mal. C'est dommage. Donc, je redonne les références. Didier Convard et Denis Falk, André Julliard, Le Triangle Secret, Hertz. Ah, on change complètement de registre. Looming. Il s'agit d'une histoire complète en deux tomes, Mélodie d'enfer. Le premier tome vient de sortir aux éditions Chiaopan et s'appelle le Guitar Leader. Avant de monter au paradis, il y a une immense plaine. C'est là que les âmes sont retenues. Les plus méritantes prennent directement l'escalator pour les cieux. Stairway to heaven. Les autres attendent un éventuel tirage au sort pour une réincarnation. Alors si vous avez donc les 7 numéros dans l'ordre et complémentaires, vous avez droit à une réincarnation dans un animal pas trop pourri. Enfin, ça dépend de vos fautes. Bref. Pendant ce temps-là, ces âmes s'occupent comme ils peuvent. Par exemple, en formant un groupe de black metal harmonique. Le problème de la formation du Swordman, c'est que leur guitariste solo vient de plaquer le groupe. Or, leur style musical fait que c'est mieux à 4 quand même, parce que sinon, faut changer la ligne de basse, jouer un octave différemment. C'est pas pareil. Le seul autre guitariste valable qu'il trouve, c'est un légendaire joueur de jazz. Et comment dire, le hard rock, ça prend pas sa tasse de thé. C'est ainsi que Liu Hei, Zhan Chao et Li Yanan, tous trois suicidés, donc condamnés à attendre très longtemps sur la prairie, décident de partir en quête de leur guitariste solo idéal en faisant appel à une voyante, Maya, laquelle va leur trouver leur oiseau rare, un guitariste qui joue si vite et si harmonieusement qu'il fait voler les notes comme des colombes, qui sort des cordes d'un air si beau qui fait pleurer les anges déchus, qui rend au rock sa patine de musique amoureusement faite par des musiciens artisans d'antan. C'est pas comme le rap de Mioche ou la techno de Machine de maintenant, ma petite dame, c'est pas de la merde. Bref, Xiong Zeng est leur guitariste idéal, mais il y a un gros souci, il n'est pas encore mort. Et idéalement, il faudrait qu'il se suicide pour que le groupe puisse le recruter pour leur tournée dans les plaines du paradis.
Swordman en concert le 7 au Berge du Styx, le 9 à la Divine Comédie, le 10 au Festival de Charon, le 14 au Bar du Purgatoire et le 32 au Divan de Saint-Pierre.
Mélodie d'enfer.
Également Gogol 1er jeudi 12 avec François Corbier et le Manège Grimaçant et vendredi 13 Psycup, Sidi Larsen, Leiden et Marie Slott.
Ok, d'accord, tant qu'on y est au planning.
Havana Café.
T'as pas ce qu'il y a ce soir, plutôt, la Furia Antistatique.
Non, c'est jeudi et vendredi prochain.
C'est jeudi et vendredi, donc voilà. C'est le Punk Toulouse ce soir. Je l'ai annoncé tout à l'heure, voilà, ok. Mélodie d'Enfer parle de rock, de hard rock, de heavy metal et de musique de l'enfer. Sauf qu'elle est jouée au purgatoire. Mais elle chante surtout la mélancolie, l'amour, la passion pour la musique. Une passion dévorante, menant au complot et au meurtre, et à la damnation éternelle, uniquement pour le plaisir d'un gig, d'un set, un concert, au groupe absolument parfait. S'il n'y avait pas les prénoms chinois, on serait cru à Londres, à Los Angeles, ou à Berlin, ou à Making the Band sur MTV Inferno. Mélodie d'Enfer, tome 1 sur 2, le Guitar Leader, c'est traduit en France par Chiao Pan. C'est de Lu Ming, un dessinateur chinois, donc qui a sorti il y a même pas un an en fait, hein, il y a deux ans en fait, cet album. Et c'est un bonheur à lire. Je vais me faire flinguer par la pub. Tant pis, on s'en fiche. On y va. Allez, chauffe Mike, chauffe. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. les Rolling Stones. Ah, merci Dus de me l'avoir retrouvé. Sympathy for the Devil. D'ailleurs, c'est amusant puisque j'ai ouvert l'antenne tout à l'heure avec la bande-son du film, pas de la série télé, le Cowboy Bebop. Et il y a un épisode qui s'appelle Sympathy for the Devil. C'est pas la seule référence, effectivement, à une chanson rock dans cette série. Absolument énorme. En tout cas, c'était amusant de faire un rebond. Et puis voilà. Alors, je vous dis pas, depuis tout à l'heure, nous, on a le son à fond en régie et on s'éclate. Mais il y a la pub qui hurle et qui dit « Ah, on a passé les midi 30, passez les pubs !» Et au moins, celle sur les Toulouse Punkers, justement, celle que j'ai oubliée. Allez, hop, zou.
Il y a 25 ans, FMR, c'était ça. Il y a 10 ans, FMR, c'était ça. Aujourd'hui, FMR, eh ben, c'est ça. Aujourd'hui, FMR, eh ben, c'est ça. FMR, la radio qui change vraiment pas. FMR, la radio qui change vraiment pas. FMR. FMR.
Comme tous les ans, les Toulouse Punkers se font leur festival. Alors du 4 au 7 octobre en ville, le chaos sera à l'honneur. Le 4 octobre à l'OTAN, Agressive Agriculteur et Sarcostone. Le 5 au Vent du Sud, les Uncommon Men from Mars, Charlie Fiasco et Saturne. Le 6 octobre au Fairfield, les Flying Donuts, Dead Pop Club et Open Nightmare. Et enfin, le 7 au Vent du Sud, Diego Palavas, Brigitte Bop, Mondragon, Medef in a Babylon et Taugaru. Alors, si tu n'es pas encore au courant, sache que ça y est, le punk revient. Le festival Toulouse Punker en ville du 4 au 7 octobre. Les légendaires Congos, le backband de Lee Scratch Perry, se produiront au Havana Café le mardi 10 octobre. Reggae Roots. Les Congos vont chercher les vibes ancestrales et les restituent de façon à vous coller la transe.
Aussi jeune, je crois que Rascal.
The Congos. Mardi 10 octobre, le Havana Café.
Vous allez arrêter votre musique là, sinon j'appelle la police, quoi.
Deux soirées durant, le label toulousain Antistatique organise sa furia annuelle.
J'aime pas les...
Plus enfantine, le jeudi 12 octobre avec un corbier de Dorothée, le manège de Grimaçant et le gogol du premier.
Ça y est, j'ai...
Puis le 13, les acteurs du label Psycup, Sidi Larsen, Leiden et Marie Slott.
Tout gagné, mais de con à nettoyer.
Le tout à Havana Café, jeudi 12 et vendredi 13. Bruh. C'est la furie antistatique.
Ils sont salvo, cabot, ben ils puent, ben ils sont pas beaux.
Du sport, c'est ta partie. Dans le supplément week-end sur FMR, 12h41.
Un petit peu de lecture pour commencer avec tout d'abord du côté des suppléments des quotidiens du samedi. Le supplément de l'équipe, c'est l'équipe magazine tous les samedis avec un numéro spécial concocté par Laure Manaudou. Elle a 20 ans. Ah, oh, quel bel âge.
Ah oui, c'est mignon.
Avec, vous ne verrez pas de photo à poil d'elle. Elle est en maillot de bain.
Ah ouais, on pourrait croire, hein, sincèrement. Ça fait une très très belle couverture de magazine féminin, je trouve.
Non, mais c'est pas mal, hein, franchement. Quoi. Ouais. Enfin bon, moi je trouve que je le dis et je le répète. Hein, l'équipe magazine était tombée assez bas il y a pas mal d'années et là ben il redresse un petit peu la barre quand même avec des sujets vraiment intéressants de temps en temps, hein, des articles polémiques, des petites choses comme ça, et il y a une rubrique qui est absolument terrible, enfin c'est une nouvelle rubrique, hein, ça dépend des semaines et tout quoi, la photo elle est terrible et tout quoi, c'est la blessure de la semaine et tout quoi.
Oh,
ah là c'est bien trash quand même. Tu vois.
Une nana, oh, c'est ignoble.
Une nana, c'est une juge d'athlétisme. Ça arrivait, hein, vraiment. Hein, ça arrivait lors des championnats du Brésil.
Ça m'étonne, ça arrive pas plus souvent, franchement. Ça,
ouais. Lors des championnats du Brésil, elle s'est fait transpercer le pied et la godasse et tout par un javelot. Donc t'as la photo et tout. Quoi. Rassurez-vous, elle va bien. Hein, rassurez-vous, elle va bien. Sinon, et bon, il y a.
Enfin, un mètre plus haut.
Ouais. Bon, il y a tout l'historique sur Laure Manaudou et tout, son nouveau mec et tout, plein de photos. Enfin bon, c'est vraiment pas mal. Hein, avec d'autres mecs qui ont également 20 ans. Un truc sur Diams qui kiffe le foot, tu vois. C'est une copine à Wiltor. Hein, tu m'étonnes, Wiltor, il est pas avec tout le monde. À partir du moment où il s'agit de faire la teuf, il y a pas de problème. Wiltor, il est. Et également une autre nana en couverture du supplément Style de Libé d'aujourd'hui. C'est qui la revenante après sa cure de Kate Moss.
Kate Moss. Ah merde. Oh,
Écoute, avec ses vrais nibards naturels et même à l'intérieur t'as une photo entière et tout. Putain, les jambes elles sont toujours aussi maigres. Enfin bon là ça va. Elle a l'air. On lui voit les côtes quand même. Mais bon, ça va. Non mais c'est vrai, hein, regarde.
Oh.
Dans le numéro style donc de.
La Marine, hein. Aussi, on voyait un peu les côtes.
Hein. Ouais. Alors, toutes les photos d'elle, c'est des photos à poil. Il hein, y a pas de problème, quoi. Tu peux le voir, mais enfin bon, il y a quoi, d'autres trucs, hein, d'habitude, dans le supplément style de. Libé, ça c'était juste pour faire le joint, pour en avoir deux, quoi, tu vois, quoi, deux nanas en couverture. facile. Sinon, là, de la presse sérieuse quand même, c'est le nouveau numéro de Comic Box. C'est le numéro 7 déjà de Comic Box Nouvelle Mouture, avec en titre Les Nouveaux Vengeurs, mais vieilles ficelles. Hein. Sinon, il y a des articles vachement intéressants, comme d'habitude. Il y a plein d'interviews, hein, de gens qui sont à fond.
Tu m'excuses, Rascal, mais c'était un peu facile. Les Vengeurs, ça a toujours été très premier degré. Hein, comme, il y a jamais eu de réel renouvellement. Hein. Dans les histoires.
Ben non, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas ça le plus important. Par contre, là où j'ai tiqué un petit peu, quoi, c'est qu'au départ, t'as un truc sur le Comic-Con, quoi. C'est-à-dire cette énorme convention
qui
a lieu à San Diego. Alors maintenant, c'est l'endroit où il faut être. Il y a pas de problème. Il y a même.
Ça fait des années. Hein.
Ouais, non, mais là maintenant, c'est devenu vraiment le truc hype.
À
fond les manettes et tout. Il y a même un super gros article dans le Technicard de ce mois-ci sur le Comic-Con. Et
tu sais qu'en plus c'est alors que le comics est vraiment quelque chose de assez souterrain aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a pas il y a pas de fête et tout ça. Et ben il y a Entertainment TV qui a fait cette année je crois des lives là-bas puisque c'est vrai qu'il y a quelques stars, mais bon.
Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de stars et parce qu'il y a plein de films maintenant qui ont repris la manne les X-Men, Batman, Superman et tout ça. Il y a une bonne interview de Frank Miller. Alors c'est assez rare, quoi, pour le souligner,
oui,
quand même. Hein. Ils en ont profité quand même, les bougres. Et également présent au Comic Con, Nicolas Cage. Alors je me suis dit, putain, il y a un mec qui s'appelle comme l'acteur. Bah non, c'est l'acteur en fait, puisqu'il va être bientôt, c'est le héros du attends, comment il s'appelle ce mec là, Ghost Rider, voilà, c'est ça, c'est lui qui va interpréter Ghost Rider, donc encore une adaptation de comics. Sinon, il y a également des interviews là de vrais dessinateurs ou de vrais scénaristes, hein. Il y a David Hein, il y a Frank Cho, il y a G.G. Jones, il y a un article sur Philip K. Dick, il y a l'article Le héros oublié. Et là, je suis vachement content parce que ça remonte à hyper loin quand les comics n'existaient pas.
Ouais.
C'est Judex. Hein, tu te rappelles de Judex? Franchement, quoi. Aïe. Ben non, t'étais pas né, c'est sûr. Moi non plus, d'ailleurs. Il y a également Jim Starlin, la bande dessinée exclusive inédite Et là, c'est quand même pas mal. On avait eu Spider-Man déjà, hein, pour les précédents numéros. On avait eu, je sais plus qui encore. Il y avait Hulk, je crois. Et là, c'est carrément les X-Men, tu vois, quoi. BD inédite, quoi. Dans le... Et il y a l'interview de Rosario Dawson. Qui c'est? C'est une nana qu'on a vue. C'est elle qui joue la pute dans Sin City. Ok.
Tout le monde bave, et... mais personne ne sera jamais touché.
Ouais, ouais, c'est ça. Et pourquoi elle est dans Comic Box? Bah, tout simplement parce qu'elle a créé, dessiné sa propre BD, mon gars. Si, si, tu savais pas. Et ben voilà. Et donc elle en parle. Et franchement, ce qu'elle a à dire, c'est vraiment très intéressant. J'ai pas encore lu son interview dans Comic Box, mais il y a également une petite interview dans le Technicart consacré au Comic Con. Et là, vraiment, elle sort des trucs vraiment très, très bien. Moi, je il n'y a pas de problème, hein, comme quoi il n'y a pas que des acteurs et des actrices américains qui sont cons comme la lune et qui n'ont rien à dire, que des conneries, quoi. Et les rubriques habituelles, hein, le journal du fan dans le numéro comics de Comic Box, donc avec 23 pages des X-Men, quoi, donc quand même.
Ouais,
quoi.
Quand même.
Hein, c'est pas mal. Hein.
Et ceci donc sous la houlette de Mad Movies depuis, bah, c'est dommage, hein, c'est vrai que les premiers Comic Box étaient très très, très bien. Et donc ils avaient quasiment disparu du marché pendant 3 ans, 4 ans. Si je me souviens bien.
Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, non, mais c'est bien, c'est ok.
Très bonne revue.
Un petit peu de lecture à présent. Et alors là, bon, c'est quand même le bouquin, c'est une biographie, c'est une autobiographie d'ailleurs, hein, c'est écrit à la première personne, hein, d'un musicien de jazz qui s'appelle Art Pepper. Il est pas trop connu en fait, hein, moyennement connu, bon, par les aficionados du jazz de toute façon. Il est hyper connu, c'est l'un des grands du jazz West Coast, hein. Il est né, il a grandi, il a joué pratiquement uniquement en Californie, sur la côte ouest. Bon, il a fait des tournées bien entendu, hein, aux États-Unis, mais enfin bon, son point d'attache, c'était la Californie. Il est né dans les années 20, dans les années 20 et 30. Il a commencé à jouer dans les années 40, hein, donc dans les ce qu'on appelait à l'époque les big bands, Stan Kenton, toute la clique. Et en fait, le bouquin qu'il a écrit, enfin qu'il a co-écrit avec sa troisième ou quatrième femme, je crois, s'appelle Straight Life. Et c'est une des bios les plus émouvantes, hein, en ce qui concerne la musique. Hein. Il y a encore la bio de Monk, hein, qui s'appelle Moins qu'un chien. Il y a la bio de Didi Ramone, là, qui est trash à fond les manettes, qui est, bon, vraiment, où tu prends les tripes à fond. Et là, c'est pareil, hein, ça te prend les tripes à fond, quoi, parce que bon, bah, l'enfance plus ou moins malheureuse, sa mère qui l'a toujours rejeté, hein, qui, le père vachement autoritaire, marin, qui revient toujours bourré et tout, mais enfin, quand même, le papa aimant, et lui qui commence à aimer la musique, qui a un don pour la musique, donc qui commence à pratiquer la clarinette et le saxo, hein. Il est connu comme sax alto en fait, hein. Le sax alto, c'est le sax alto, si tu veux, t'as quatre sortes de saxophones, t'en as trois qui sont courbés et t'en as un qui est droit. Le droit, c'est le plus aigu, le plus haut, c'est le soprano, et ensuite t'as l'alto, c'est le plus petit des tordus, quoi, tu vois. Ensuite il y a le ténor, et ensuite il y a le baryton, c'est le gros là, les trucs énormes, quoi. Lui, c'était plutôt un altiste, bien qu'il pratique également beaucoup la clarinette, hein, ses maîtres en fait, les musiciens qu'il a toujours appréciés étaient des clarinettistes en général, hein, de très bons clarinettistes. Et dans ce bouquin, bon, bah, Straight Life, hein, raconte la vie d'Art Pepper avec bien sûr beaucoup de dope, énormément de dope, des séjours en prison. Alors bon, il y a des descriptions de ces séjours en prison. Tu croirais que c'est du Edward Bunker à fond les manettes, hein. Il a fait Saint-Quentin, il a passé 4 ans à Saint-Quentin. Enfin, au total, il a dû faire 10 ans de prison, quoi, tu vois, quoi, tranquille. Uniquement pour possession de dope, hein, uniquement pour ça. Et parce qu'il voulait pas balancer ses dealers et tout. Donc, allez, tu t'en prenais un maximum, mais vraiment un maximum. Alors, la dope, la déchéance, la musique quand même, hein, il parle des musiciens qu'il a vachement apprécié. Il a fait une fixette à un moment sur John Coltrane. Par contre, il n'aimait pas trop Charlie Parker, qui était le mec le plus connu à cette époque-là, hein, qui dans le monde du bop. Et comme justement à l'époque, si tu veux, quoi, il y avait toujours cette opposition entre les musiciens de jazz, on va dire classiques, hein, qui étaient plutôt du centre des États-Unis ou de la côte est, par rapport aux musiciens de la côte ouest qui étaient considérés comme des branleurs. Hein, il n'y a pas Art Pepper, il y a également Jerry Mulligan et beaucoup d'autres comme ça, hein, qui étaient vraiment déconsidérés, hein, par le restant des des musiciens de jazz, parce que bon, ils faisaient un jazz un petit peu plus léger, un peu plus cool, un peu moins torturé, on va dire, hein, oui. Mais quand même vachement agréable à écouter. Hein.
Moi, c'était d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que mes connaissances de ce côté-là sont assez limitées, je crois que c'était le jazz aussi que la radio de l'armée américaine faisait passer de préférence dans les radios pour les forces armées, pour les soldats au front, et de ce côté-là justement ils trouvaient que c'était pas c'était un peu vendu envers l'autorité et tout ça donc c'est un peu aussi il y a plusieurs raisons hein, des frictions, ouais, il y a aussi parce qu'il y a beaucoup plus de plans côte ouest que pour la Nouvelle-Orléans.
Il a été appelé par l'armée parce que bon bah ok, c'était la guerre, donc il est parti en Angleterre, il a fait le débarquement, il est allé en France ensuite avant d'être démobilisé il est retourné à Londres où il faisait partie de la police militaire, enfin plein de trucs, bon c'est vraiment très très intéressant, toute sa vie en prison, toutes ces années de galère et de dope, hein, c'est vraiment saisissant, hein, c'est, il y a des passages loufoque aussi, quoi, où à un moment, quoi, début des années 70, on lui fait prendre de l'acide. Il a jamais pris d'acide, hein. Lui, il était surtout au départ bon alcoolo comme son père, puis la cam, c'est-à-dire l'héroïne à sniffer, puis la seringue,
ah oui, quand même,
où il tournait à 10-15 grammes par jour, quoi, donc un truc énorme, quoi. Il buvait 5 à 6 litres de vin par jour, enfin bon, les trucs énormes, quoi, vraiment. au début des années 70, bon, il subit une opération, on lui enlève la rate, on lui dit il faut plus jamais boire parce que tu es cirrhosé du foie, donc tu vas crever si tu recommences à boire. Il fait 3 ans de cure de désintox dans une espèce de centre de posture. Il ressort direct, ce qu'il va faire, c'est acheter une bouteille de cognac. Enfin, vas-y, c'est sympa. Et il y a un petit côté loufoque aussi, c'est quand il prend de l'acide au courant d'une soirée et tout. Il prend une vodka, un truc comme ça, on a foutu un truc d'acide dedans, il commence à planer et tout, quoi. Et là, il se rend compte, c'est la seule fois qu'il se rend compte du pourquoi et du comment, pourquoi je me défonce, à quoi ça sert, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, quoi. Mais le problème, quoi, c'est qu'il se rend compte pendant son trip, mais après la descente, il oublie complètement le pourquoi. Et donc, ce qui fait qu'il continue à pratiquer cet art qu'est là, ou cet art, cette déchéance qu'est la défonce. Avec quelques petits passages, il y a des témoignages, hein, de personnes qui étaient proches de lui. Donc c'est bien parce qu'il y a des fois des témoignages qui sont un petit peu contradictoires, donc c'est pas mal. C'est un excellent bouquin, vraiment, hein. Je l'avais lu il y a une douzaine d'années et tout, mais bon, je me suis dit je vais m'y remettre, je vais me relire, parce que vraiment c'est un truc énorme. Ça s'appelle Art Pepper, donc le bouquin s'appelle Straight Life. C'est vraiment une straight life, hein. Bon, t'en prends une bonne claque dans la gueule, hein, et c'est sorti aux éditions Parenthèse. Et si tu veux, là, tu as 1000 de disques, mais j'aimerais bien que tu passes le morceau, le numéro 4, là, juste quelques instants. Ouais, voilà, tu me mets le numéro 4, là, tranquille. Hein, c'est le disque s'appelle Art Paper plus 11, qui est sorti en 1960-1961, hein, entre deux séjours en prison, en fait. Hein, chaque fois qu'il sortait de prison, il y avait encore des potes dehors, et des gens qui étaient dans le monde de la musique et qui lui filaient un coup de main, qui l'aidaient à repartir, qui lui trouvaient des engagements dans les clubs et dans les orchestres pour pouvoir repartir un petit peu au niveau professionnel, parce que ce sont des gens qui l'appréciaient au niveau musical. Et donc c'est un disque qui a été enregistré en 60-61. Et là, on va le disque s'appelle Art Pepper plus 11, et ce sont uniquement, il a très peu écrit, hein, il a surtout interprété beaucoup de morceaux d'autres. Là, ce ne sont que des morceaux assez connus, on va dire, hein. Là, je passe un morceau qui est super connu quand même, de Monk, un morceau que tout le monde connaît d'ailleurs, et qui a donné son nom à un film sur la vie d'un autre saxophoniste très connu, Dexter Gordon.
Oui, c'est celui-là, ouais.
Thank you.
ça, l'ambiance Brandy avec les gros cigares.
Ah bah ouais, ouais. Round Midnight donc, hein, le morceau de Monk. Qui a été joué, rejoué par tous les jazzman. De toute façon, c'est un des trucs les plus connus. De toute façon, un des morceaux les plus connus. De la télé maintenant, à présent. Hein, bah ouais, on passe au truc mineur à présent. Avec quelques petites séries. Il y a pas grand-chose de nouveau, hein, sinon si quand même. Tu sais que un Dick Wolf peut en cacher un autre. Samedi dernier, je te disais que New York Cour de Justice, c'était le dernier épisode, hein, qui était diffusé dimanche dernier sur TF1 à 15h10 après Walker Texas Ranger. Non, maintenant c'est après Monk, quoi, en fait.
Donc on y gagne au change.
On y gagne au change. Oui. Et ben New York Cour de Justice n'avait duré que 13 épisodes, ça a peine pas du tout marché. Bah Dick Wolf est têtu, vraiment têtu. Il continue, et il persiste et il signe et il nous en remet une couche avec une nouvelle série qui se passe dans le monde de la justice américaine à New York. Ça s'appelle Conviction et de plus, bah, il reprend des acteurs, des actrices qui ont déjà figuré dans d'anciennes séries. Conviction a été diffusée par NBC, 13 épisodes jusqu'à présent avec Stephanie March. Bah, c'est la procureure, la blonde que tu vois dans New York Special Victim Unit avec Chris Meloni et toute la bande. Je vais en reparler tout de suite après. Il y a également dans cette nouvelle série de Dick Wolf, Conviction, donc Julianne Nicholson, qu'on voit également dans la série Medium qui est diffusée sur Série Club. Eric Balfour qui joue le rôle de l'étudiant Milo dans la deuxième saison de 24. Également Anson Mount qu'on avait pu apercevoir dans la série New York 911, tout ça donc dans cette série qui s'appelle Conviction. Alors bon, c'est du Dick Wolf, vous pouvez y aller tranquille, hein, c'est du sérieux, c'est du fouillé,
c'est bien conçu, c'est très bien filmé, c'est bonheur.
C'est nickel, hein, y a pas de problème, hein, de toute façon. Donc c'est demain, dimanche sur TF1 à partir de 15h10. Et je parlais juste avant de New York Unité Spéciale, et bien on est vachement content. Ouais, le retour, la saison 7, c'est à partir de ce soir après l'émission de variété sur TF1, donc jusqu'à 23h10, 23h15, après le tunnel de pub. Hein, là, c'est le tunnel, je veux dire, putain, c'est le tunnel sous la Manche, quoi, des fois. Hein, c'est long.
Et c'est un truc que je comprends pas, ils mettent pas de coupure quand ils enchaînent les épisodes de CSI et de 24.
Mais ouais, alors, non, mais ça c'est bien, quoi, justement.
Ça
quoi.
C'est bien, mais par contre, ils foutent le.
Avant ou après, vas-y, hein, tu peux y aller, quoi. Donc, on ne présente plus New York une été spéciale avec Chris Meloni, avec Mariska Hargitay, Diane Neal, Ice-T, Richard Belzer. Donc, Chris Meloni qu'on a vu également dans, je m'en souvenais pas, mais dans le premier film des frères Wachowski, Bound. C'est l'histoire des deux nanas, là. Avec Joe Pantoliano et tout ça, enfin bon, un polar bien dur, bien hard. Et Bound qui repasse d'ailleurs mardi prochain sur RTL9 à 23h05 si ça vous intéresse. Donc New York Unité Spéciale, c'est ce soir à 23h10, 23h15 on va dire, sur TF1 avec deux épisodes, hein, comme d'habitude. Le premier s'appelle La fille mère. Et le deuxième s'appelle Traumatisme, avec comme invité, hein, comme guest star, on va dire, Gordon Clapp. Gordon Clapp, qui est l'inspecteur Mike Medavoy dans les 12 saisons, hein, c'est le seul acteur avec Dennis Franz qui est du début jusqu'à la fin de NYPD Blue. C'est-à-dire la première à la 12e saison, il y a Mike Medavoy. Et interprété donc par Gordon Clapp, qui au début de la série, surtout dans les 3-4 premières saisons, c'est le mec qui est bègue et tout, il a du mal, dès qu'il est un petit peu en difficulté, il se met à bégayer et tout, quoi. Et bon, c'est Gordon Clapp qui est absolument pas bègue, l'interprète, mais alors c'est excellent, vraiment très très
c'est,
bon.
C'est hein. Du bonheur en marre, ouais. C'est vrai que c'est pour cela, il y a vraiment, c'est là où on sent la profondeur, la richesse des personnages dans les séries américaines, du moins surtout dans les polars.
Non, et la qualité des acteurs.
Hein, c'est clair que là, ouf.
Non, vraiment. Dans FBI Porté Disparu, demain, bah, on le retrouve, Gordon Clapp. C'est marrant, quoi. Avec la nouvelle saison, hein, c'est la troisième ou la quatrième saison. Bon, ça commence à être un petit peu mou du genou. Hein. Dimanche dernier, il y avait un épisode qui était vraiment très intéressant, enfin, du moins pour moi, quoi, le premier. Le deuxième, par contre, hein, avec l'histoire de la nana coréenne, là, c'était vraiment très bien, quoi. Impeccable, mais enfin, bon, c'est un petit peu en deçà. C'est parce que, bon, Hank Steinberg, qui est le créateur de la série, a largué la série, hein, il n'écrit plus, il ne coordonne plus les scénarii, hein, c'est un autre mec qui s'en occupe, donc ça s'en ressent un petit peu. Alors demain, dans FBI porté disparu sur France 2 à 20h55, qui a d'ailleurs une nouvelle personne, hein, y a un nouveau personnage qui apparaît dans l'équipe de Anthony LaPaglia, c'est Roselyne Sanchez, qu'on avait déjà vu dans LA Dragnet. Ouais. La nana que tu confonds avec Eva Longoria. Tu sais, il y a deux hispaniques dans Dragnet là avec Ed O'Neill. Et en fait, tu sais pas trop, t'hésites et tout quoi. C'est laquelle, Eva Longoria? Et ben non, c'est pas Roselyne Sanchez, c'est l'autre quoi. Et donc, elle fait partie donc de l'équipe de La Paglia. Dans FBI est porté disparu. Alors, le premier épisode, c'est Voyage au Mexique. Hein, ils ont décidé de décentraliser, hein, comme les ricains font beaucoup. Hein. Bon, il y a pas que les ricains. Et avec comme invité, quelqu'un qu'on connaît bien, Alex Kingston, le docteur Corday dans Urgence. Et dans le deuxième épisode de FBI porté disparu, qui s'appelle Un dernier combat, Gordon Clapp à nouveau, donc comme guest invité. Lundi, vous avez le choix. Avec soit du bourrin, alors super bourrin, mais moi j'aime bien quoi, franchement quoi, mais c'est vraiment bourrin quoi, y a pas de problème, c'est bourrin, c'est limite un peu facho et tout. C'est la dernière série de Aaron Spelling, ça s'appelle Wanted, avec Gary Cole, Litter Gessen entre autres. C'est diffusé sur W9, deux épisodes à chaque fois, lundi prochain à partir de 20h45. Alors si vous êtes bourrin, vous allez regarder ça, mais si vous voulez être très cultivé, vous regarderez ce petit documentaire sur Mezzo, une chaîne musicale, sur Tugan Sokiev, qui est le nouveau patron de l'orchestre du Capitole. Hein, donc c'est l'occasion de connaître un petit peu mieux ce monsieur qui.
Mon Dieu, Michel Plasson est
a
déjà.
Remplacé à... Plasson.
On a réussi à décrocher la moule du rocher.
Oh, ouais.
C'est énorme.
Donc Tugan Sokiev, donc un petit truc qui fait qu'une demi-heure, hein, mais un documentaire qui date de cette année, quoi, hein, 2006, donc, et qui est sous-titré Crescendo Subito. C'est lundi donc à 20h45 sur la chaîne musicale qui s'appelle Mezzo. Où il passe pas de clip, je te rassure, il y a pas de clip sur Mezzo.
Ah, c'est faux. Au bout d'un moment, ils avaient tenté de passer un peu comme des clips des parties live de festivals d'art lyrique. Ça passait plutôt bien d'ailleurs. C'était de ce côté-là, c'est pas trop mauvais.
Alors lundi soir, traditionnellement sur TF1, deuxième partie de soirée, c'est Grey's Anatomy. Que moi j'ai quand même vachement du mal à accrocher, hein, je sais pas quoi, c'est bon, ça prend pas quoi, enfin bon, c'est vrai que c'est bien écrit, c'est vrai que il y a du boulot, les acteurs et actrices sont convaincants, mais enfin bon, les histoires, bon, pas trop quoi, bof quoi, hein, histoire de cul là comme ça, bon, ça, il y a un mélange qui prend pas, enfin moi j'aime pas trop, pourtant c'est une série qui est vachement appréciée,
qui a bien cartonné au Emmy, si je me trompe pas.
Qui a cartonné au Emmy, qui a cartonné également au niveau nombre de téléspectateurs, hein, qui changeait pas de chaîne après Desperate Housewives, vu que c'était diffusé, programmé juste après Desperate Housewives aux États-Unis. Donc c'est pas mal, hein, c'est tout à son honneur. Et TF1 fait les choses en grand, alors avec les deux épisodes traditionnels du lundi en deuxième partie de soirée, mais surtout avec le prime time le lendemain, c'est-à-dire mardi. Les trois derniers épisodes de la saison 2, donc à partir de 20h50 sur TF1, qui s'appelle Un cœur pour deux, et ensuite il y a Un pour tous, et le deuxième s'appelle Tous pour un. Voilà, facile.
Non.
Voilà, donc sinon, on a également du côté série française une nouveauté, et là de l'avis même. Et du discours même de Pascal Legitimus, qui est le héros principal de cette nouvelle série à la française. Eh bien, on copie sur les Américains, ça on le savait déjà depuis pas mal de temps.
Il l'avait déjà fait pour Profiler. Hein.
Mais excellente série. Hein.
Ah oui, très bonne, très bien écrite et assez rigolote.
Mais ils adoptent également le format, c'est-à-dire 52 minutes, mais le nombre d'épisodes par saison. Il y aura 24 épisodes donc de cette nouvelle série qui s'appelle.
24 format, c'est 26.
Non, 24 fois 52 minutes.
Ah, peut-être qu'ils font un pilote en double. Un pilote en durée double.
Ouais, non, c'est 22 ou 24, ça dépend. Hein.
C'est plutôt 26. Hein.
Ouais, non. Lost, il y en a 22. Prison Break, il y en a 22. Donc, bon.
Bon.
Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça s'appelle donc Les Tricheurs. Vu le pitch, ça ressemble un petit peu à cette série anglaise qui avait été diffusé sur Paris Première, hein, qui s'appelle Les Arnaqueurs VIP. Hein, c'est un petit peu le même trip, sauf que là, eh bien, Pascal Légitimus, c'est un escroc en chef, hein, qui sort de prison et qui va se faire aider. Alors là, c'est un petit peu plus le trip franchouillard et tout, par des gens de sa famille, avec sa fille Sophia Martins. Alors Pascal Légitimus joue le rôle d'Alex Toussaint. Il y a également Sophia Sarah Martins qui joue le rôle de Sophie Toussaint et Leila Bekti qui joue le rôle de Vali Toussaint. Et Sarah Martins, qu'on connaît vu que elle jouait un rôle référence dans la saga de l'été au-dessous du volcan, hein. Et on l'avait également vu, hein, c'est la petite blaquette qu'on voit dans Police District. Donc pas mal, hein, pas mal. Et Leila Bekti, donc, dans cette série qui s'appelle Les Tricheurs, diffusée sur M6 à partir de mercredi prochain, 20h50. Le pilote que vous allez pouvoir voir mercredi prochain s'appelle L'As de Carreau. Et c'est une série qui a quand même obtenu le prix du meilleur scénario lors du dernier festival de la fiction télé à Saint-Tropez, hein, c'est
donc
pas
en
mal.
Screening
voilà, en screening, hein, le président c'était Victor Lanoux, jury avec Christiana Reali, Isabelle Otero, bref, que du franco-français. Ok. Il faut signaler qu'à l'occasion de ce festival de la fiction télé à Saint-Tropez, le prix du meilleur téléfilm est allé à un téléfilm qui s'appelle Vive la bombe, qu'on pourra voir prochainement sur Arte. Hein, le prix du grand public pour une série a été attribué à Laura sur M6 et au téléfilm Alerte à Paris, que je crois qu'il n'y a pas encore été diffusé par TF1. Et le prix de la meilleure série d'Access Prime Time, ça c'est facile.
Française.
Oui, française, hein, c'est que du français.
Française.
Allez, ouais, facile. C'est rigolo. Moi, le truc qui te fait le plus pisser de rire à la télé en ce moment, qui est français.
Oh, RIS.
Mais non. Kaamelott, bien sûr.
Ah,
ouais. Ouais, premier degré.
Ah, pardon, merde. Access Prime Time, excuse-moi.
Ah,
oui.
Ouais, bah ouais, allez, quand même. Allons,
c'est vrai, Kaamelott, là, il le mérite bien en plus.
Bah ouais, merde, faut pas déconner, quoi. Hein. Oh, excusez-moi. Il y a des enfants qui écoutent, hein, peut-être. Allez, vite fait des films maintenant à la télé, avec là de parti pris comme d'habitude à fond les manettes. Mardi prochain, on va te faire le mardi, le mercredi et un peu le jeudi, quoi. T'es d'accord? Allez, mardi, alors ouais. Sur TF6 à 20h50, Soldier. Ouais, un film avec des couilles. Le Paul Anderson 98, c'est normal, il y a Kurt Russell dedans. Jason Scott Lee, Colin Wilson et Michael Chiklis, l'as de la crime. Vic McKay dans The Shield. Et en même temps, sur CinéFX, eh bien, tu as droit à 20h50, les soucoupes volantes attaquent. Ça, c'est un gros classique de Fred Sears.
Ah, je m'éclatif, ça.
Avec Hugh Marlowe et John Toller. Et à 22h25, le retour des tomates tueuses.
Ah, hier, je me suis fait quand même.
Non, c'était avant-hier. Hein,
c'était avant-hier. Je venais tout juste d'avoir ma cuisine qui était terminée. Je me suis fait une sauce tomate. Avec les spaghettis, c'est un bonheur, hein, ce film. Parce que c'est la première apparition à l'écran de...
Non.
C'est la deuxième.
George Clooney, enfin, dans un film, on va dire, peut-être.
Oui, dans
encore,
un film.
C'est
oui.
À vérifier. Hein, parce qu'il il était déjà apparu dans la série Tonnerre Mécanique, hein, je sais pas si tu te rappelles.
Oh,
ah ouais. Terrible. Et il a la même coupe de cheveux, hein, d'ailleurs. Hein. Il a la même coupe de cheveux. Alors, c'est à voir pour la coupe de cheveux de George Clooney.
Et c'est, hein. Et vous allez voir, le retour de Thomas Tueux, c'est fauché comme film. Mais fauché à un point, vous ne pouvez pas croire.
Est-ce que tu as remarqué qui c'était le savant, là, qui c'était? Tu as remarqué? Tu l'as reconnu?
Moi, j'ai reconnu l'écusson qu'il a dans le dos, mais non.
Non, c'est John Astin. Gomez Adams.
Oh, punaise.
Eh oui. Bon, ben,
il va bien, ça m'en fout.
Ouais. À signaler qu'il y a eu, alors c'est marrant parce qu'on a cherché là ce matin, parce que c'est le retour des tomates tueuses, donc on s'est dit, il doit y en avoir un avant.
Bah
alors,
oui, puisque au début, en fait, pendant le générique, ils réutilisent l'attaque des tomates tueuses, comme générique parce qu'ils sont trop fauchés.
Ouais, mais.
Ils barrent et ils mettent retour.
Ouais. Et après, deux ans après, en 90, The Killer Tomatoes Strike Back. Ouais.
Et c'est en France.
C'est mardi toujours, hein, sur Ciné-Cinéma Classics, un film inédit en France, un western inédit en France et diffusé en version originale, When the Dalton Rode, quand les Dalton chevauchaient, de George Marshall.
Je pense que c'est les frères, c'est les cousins, c'est pas les frères.
En 1940, donc avec Randolph Scott et Brian Donlevy. Hein. Brian Donlevy, putain, merde, faut pas déconner quand même. Mercredi, une petite daube, on va dire, de Karl Reiner. Il en a pas fait beaucoup tant que ça, des daubes. Hein. C'est le fils de Rob quand même, hein, c'est-à-dire bon, dans le monde du cinéma comique, c'est quand même quelqu'un. Et là, il vaut surtout parce que l'ensemble de la distribution, ce sont des gens qu'on a pu voir dans des séries et autres. Exception faite de Bette Midler, hein, qui joue le rôle principal de ce film qui s'appelle C'est ça l'amour, mercredi prochain sur RTL9. Oui.
Oui, je disais juste.
Oui. Oui. J'avais une réclamation, c'est Thomas. Franchement, oui. Les gars, c'est pas cool. Vous, à deux, vous trouvez quand même le moyen de dépasser l'horaire.
Ah bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux.
Il est très
en train de faire des plannings.
Ça va, t'es content, hein, ta photo de ton acteur Starfleet.
Mais tu l'avais publié en plus.
Oui, je sais. Oui, j'ai une réclamation.
Bon. Allez, bonne continuation. Hein.
Ouais, ouais. Tu peux nous dire au moins ce que tu prépares la semaine prochaine, ça me ferait plaisir.
Alors la semaine prochaine, j'essaierai de voir SPL, le film de Donnie Yen hongkongais avec Sammo Hung.
Ah non, pas le flic de Chine, de
Shanghai.
De Shanghai, non.
Si, 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 si.
Le flic de Shanghai, et t'as vu la bande-annonce, ça finit par ça va cogner.
Tu m'étonnes.
D'accord. Merci Thomas, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Ciao.
Donc je disais, le film de Karl Reiner, mercredi prochain sur RTL9 à 20h45, C'est ça l'amour, de 98, avec donc Bette Midler, mais il y a également son mec, c'est Denis Farina, donc hein, on présente plus, Crime Story, New York District, David Rache, excellent, Gail O'Grady, qui jouait justement dans NYPD Blue et qui se faisait draguer dans les deux premières saisons, par Meda Voy, hein, la blonde avec des
des avantages, des sérieux avantages.
Jamie Denton, qui ne s'appelait pas James Denton comme maintenant dans le générique de Desperate Housewives. Hein, à l'époque c'était Jamie Denton, hein, comme dans le Caméléon d'ailleurs. Hein, et il y a également Danny Nucci donc dans ce film de Karl Reiner, C'est ça l'amour, mercredi prochain sur RTL9 à 20h45. Mercredi également sur TCM. Alors là, bon bah c'est du gros classique, mais bon ça vaut le coup. Juste parce que ça vaut le coup. Spécial Peking Pass sur TCM avec à 20h45 Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, à 22h45 La Horde Sauvage, la version remasterisée et du réalisateur donc.
Yes.
Et à 1h10 un nommé Cable Hogue. Que du bonheur quoi. Jeudi sur TCM à 20h45 le meilleur film de George Lucas, et là je le gueule, American Graffiti avec Ron Howard, Richard Dreyfuss, Harrison Ford et Paul Le Mat. Sur 13e rue jeudi prochain également à 22h50, 13e rue qui depuis le début du mois j'ai complètement droppé, mais enfin bon, comme on est encore un petit peu le début du mois, ça va. Tout le mois sur 13e rue, c'est le mois de l'horreur. Avec un truc que j'ai vu absolument ineffable qui s'appelle La main qui tue, hein, c'était la semaine dernière mais ça va repasser donc, mais ça c'est à regarder tellement c'est rigolo.
C'est la main du diable non qui est greffée.
Non, c'est pas la main du diable justement, c'est pas une main comme ça qui se balade, c'est le mec qui a une main, il peut pas la contrôler.
Oui, c'est ça, et qui donc, se fait greffer et qui...
Non, il se fait pas greffer, on sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais bon, voilà quoi. Alors bon, genre délire adolescent et tout quoi, le mec qui passe son temps devant la télé à fumer des pétards
C'est mieux que passer ses journées devant World of Warcraft. D'ailleurs, il y a un épisode de South Park qui a été diffusé il y a un mois aux États-Unis, qu'on commence à trouver sur que les mecs ils mettent sa vie sur Dailymotion, YouTube et tout ça, qui a été fait non plus en animation découpée, mais en animation World of Warcraft, c'est-à-dire les concepteurs du jeu participent en fait à South Park. Donc si vous voulez des délires d'ado, là c'est pas mal.
Voilà, donc c'est le mois d'horreur sur 13e rue, hein, avec pas mal de trucs bien, hein, il va y avoir Blair Witch prochainement, enfin bon...
Ah oui, quand même, ouais.
Ouais, si. Et là, ce mois-ci, enfin cette semaine, pardon, c'est plutôt le jeudi soir, hein, où t'as vraiment le truc à fond les manettes, où t'as deux films, quoi. Là, le film de deuxième partie, qui est toujours un peu plus trash que celui de première partie, qui est généralement sans intérêt. sinon pour les gens qui adorent les nanas, un gros classique, et il était présent cette semaine à Toulouse, Action Mutante de Alex de la Iglesia.
Oui.
Jeudi prochain donc sur 13e rue à 22h50 avec Antonio Resines, Alex Angulo, enfin bon, il y a pas besoin de vous le répéter, merde, si vous l'avez pas vu.
Il était à Toulouse.
Il y avait une rétrospective, il y avait tous ces films qui étaient
à la Cinémathèque.
Oui, dans le cadre de Ciné España.
Mais pour une fois il y avait un
mais
bon
je
truc
vous l'ai dit, Cine-Espagne. Mais je vous l'ai dit et répété. Allons encore des gens qui ne suivent pas. On termine pas sur une note rigolote, mais enfin sur un film que moi j'ai trouvé vraiment super bien, quoi. C'est une espèce de huis clos, un tête-à-tête entre deux personnages, un gardien de prison et un tueur en série. Ça s'appelle Killer Journal d'un meurtrier. Un film de Tim Metcalf de 96, interprété par James Woods et Robert Sean Leonard. Mais c'est vraiment très très bien, hein. James Woods, il est magnifique dans ce film. Enfin, bon, James Woods, généralement, il est bien, quoi. Hein, y a pas de problème. Mais là, vraiment, c'est pas mal, hein. Vu le sujet qui est un petit peu dur, un petit peu âpre, c'est vraiment très très bien foutu. Ça s'appelle Killer Journal d'un meurtrier. C'est sur Action jeudi prochain. À partir de 22h50 ou 22h45. Voilà. Et je voulais terminer avec ce qui est paru dans le supplément de télé, la Dépêche de dimanche dernier, hein, comme tous les dimanches, hein, les programmes de télé, quoi donc. Et on s'attaque aux séries américaines, bien sûr, avec alors l'interview. Alors là, je t'ai sorti quand même l'interview de Takis Candilis, qui est directeur de la fiction sur TF1. Et qui te sort des énormités comme quand Steven Spielberg a débarqué avec urgence et que Jerry Bruckheimer a lancé les experts puis FBI porté disparu, ils ont apporté un professionnalisme indéniable et la qualité a suivi. Voilà pourquoi les séries américaines ont acquis une telle puissance aujourd'hui.
C'est pas parce qu'ils ont déjà d'abord bien amorti sur leur terrain et qu'ensuite ils ont une vraie industrie avec concurrence.
Non, mais bon,
cite-moi une chaîne américaine qui fait 40% d'audience en soirée.
Alors, peut-être CBS. Tu sais pourquoi? Parce que bon, bah là, dans justement le supplément télé magazine, on nous propose bien la semaine de diffusion sur CBS. Alors, ça commence le lundi soir à 22h, les experts Miami.
Ouais.
Le mardi à 20h, NCIS. Puis, le mercredi à 21h, Esprit Criminel. Puis à 22h, les experts Manhattan. Le jeudi à 21h, les experts, c'est-à-dire avec Grissom. Mmh. Le vendredi à 21h, Just Cause, qui est diffusé sur TF1 en deuxième partie de soirée, le mercredi. Puis à 22h, toujours le vendredi, Numbers, la saison 3. Et le dimanche, à 21h, Cold Case, saison 4. Cold Case que je n'ai pas cité, putain, et dont la saison 3 commence à être diffusée par Canal+, c'est jeudi prochain, hein, donc à ne pas louper, hein, c'est une très bonne série. Avec deux petites nouvelles d'ailleurs dans la série, hein. Il y avait qu'une nana, hein, c'était Catherine Morris, donc l'héroïne principale de Cold Case, mais le reste du staff c'était que des mecs. Et là ils se sont dit pour que ce soit un petit peu plus joyeux, hop, il y a deux nanas de plus dans la série. Cold Case donc le dimanche, puis FBI porté disparu à 22h, tout ça sur CBS, tu vois. Donc toute la semaine t'as que des séries le soir.
Alors attention, parce que tu donnes des horaires, il faut savoir en fait que ce que l'on appelle un network, un réseau aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'une chaîne en France, c'est-à-dire que ce sont des stations régionales qui reprennent des programmes qui leur sont envoyés en fait par un grand groupe à New York, et qu'ils changent les horaires, soit parce que tout simplement il y a 4 ou 5 fuseaux horaires aux États-Unis, mais aussi
il y en a que 3, je crois.
Il y en a 3 principaux effectivement de programmation. Il y a Côte Est, Central et Pacifique. Mais tu as aussi Pacifique effectivement avec Hawaï et l'Alaska. Mais il faut pas oublier une chose aussi aux États-Unis, c'est que suivant s'il passe un match d'un groupe local, donc il se retrouve à décaler, mais il y a aussi le fait que il y a des groupes de pression locaux et que dans les États du centre, souvent, ils renversent les heures de programmation de certaines grosses séries et donc ils les passent beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'ils donnent une heure relativement tardive. Il faut savoir qu'à New York, ils passent plutôt à 21h en général les CSI, alors que dans les États du centre, c'est plutôt à 23h, minuit, c'est un peu gênant. Enfin, 23h parce qu'il ne faut pas déborder après sur Letterman. Donc voilà, t'as un peu complet.
Ok, et t'as remarqué ? Rien sur Prison Break
J'ai perdu mon pari.
Alors. Non, mais quand même, t'as vu là, franchement, quoi, ils changent le tuyau, et donc du coup, ils arrivent plus, quoi. Ils essayent de dézinguer, alors un putain de tuyau qui doit faire 400 mm de diamètre, quoi, tuyau d'acier et tout, quoi, avec... des brides maintenues par facile 30 boulons de 22 ou de 24, tu vois quoi, et les mecs avec un manche à balai, ils essaient de dézinguer ça. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et alors la meilleure quand même, franchement la meilleure quand même de Prison Break, c'est quand même le coup du tatouage, hein. Je m'incise la peau,
ça,
et
oui,
j'avais
oui.
Planqué la pilule en dessous, quoi, tu vois quoi. Alors là, la suite c'est jeudi prochain, Prison Break, donc sur M6, à ne pas louper quand même.
Thank you.
Et c'est sur ce bon je tasse que du sport clôt le supplément week-end et il va enchaîner évidemment avec ça, c'est du sport de suite. En attendant, c'est vrai que si vous avez manqué le début, ben on a parlé de bande dessinée, il y a eu l'interview de Café Cuid de Christophe et Sabine que l'on a effectué à Angoulême en janvier dernier. Et Thomas sera de retour la semaine prochaine normalement avec Samoung. Enfin bon, ceci dit, la suite des programmes sur www.radio-fmr.net et 89.1 MHz. Et ben sachez que vous retrouverez tout de suite du sport à 17h du mix avec Big Bang, 18h Vie d'ordure, 19h on est chez nous, 20h la Cetero Experience et 21h30 Stay Tuned, c'est du Two Step. Et oui, c'est la nouvelle grille de Radio FMR, c'est les 25 ans quand même de la poubelle des radios. Voilà, et ceci dit, quelque chose d'autre à rajouter. Promis juré, cette fois-ci, on mettra systématiquement, on publiera les émissions de la semaine sur le site de la radio, parce que c'est vrai qu'on nous a dit, c'est pas évident à retrouver, etc. Supplément, tiré, supplément week-end, MP3, podcast, etc. Bah oui, on peut réécouter toutes les émissions que l'on a effectuées, et même on peut s'y abonner. Donc, vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, et vous retrouverez les anciennes émissions à partir de ce week-end. Voilà. Ciao, see you. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous cède la place à MC du sport.